Quand, sur un même thème, deux livres se croisent, s'interpellent et s'enrichissent en écho, c'est Livre en Résonance, votre nouvelle émission littéraire, un mardi sur trois à 14h et en replay le samedi suivant à 19h. Vous êtes bien sur Station Simone.
Bonjour, vous êtes bien sur Station Simone. Aujourd'hui, une nouvelle émission, Livre en Résonance, avec Télémaque. Bonjour Télémaque.
Bonjour Claude Léa.
Le principe de l'émission, deux livres sur un même thème qui se répondent l'un l'autre. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les méfaits du non-dit en famille. C'est bien ça.
Tout à fait.
Voilà, les erreurs d'interprétation qu'on fait sur les autres par manque de communication. Alors, je vais commencer par donner la parole à Télémaque.
Alors, le livre en question est un livre d'une auteure qui s'appelle Céleste NG. Et le livre s'intitule « Tout ce qu'on ne s'est jamais dit ». C'est un premier roman paru en 2014 aux États-Unis.
Et qui a été traduit donc par Fabrice Pointeau de l'Amérique. Donc on va parler des traducteurs parce que c'est un métier trop souvent dans l'ombre. Ce livre, ça se passe où, quand ?
Alors, dans l'Ohio en 1977. Donc c'est important.
Parce que le personnage principal...
Le personnage principal, James Lee, est chinois. Et à l'époque, aux États-Unis, on n'en voyait pas tellement. Le thème principal, à mon avis, donc, du roman, c'est le problème de l'intégration et du racisme, hein, pourrait-on dire, anti-asiatique. Il se dit lui-même être un oriental.
Un oriental, on appelait comme ça les Asiatiques, puis on n'est pas loin de la fin de la guerre du Vietnam.
Absolument.
Et il y a un rejet aux États-Unis.
Probablement.
Des orientaux, entre guillemets, sans faire la distinction. Pourtant, c'est un homme qui fait des études.
Il a fait de brillantes études, il est professeur à la fac d'histoire, mais malgré tout, ses étudiants se moquent de lui, l'appellent le Shintok, on lui signale ses yeux bridés, enfin, il ne se sent pas à sa place, il ne se sent pas intégré.
Et pourtant, il épouse une blanche.
Alors oui, pour lui, c'est une victoire, c'est une de ses étudiantes qui vient dans son bureau, c'est elle qui fait le premier pas, c'est pas du tout lui qui va la chercher, c'est elle qui vient le voir, ils tombent très vite amoureux. Après, James se reprochera d'avoir épousé une blanche et se sentira coupable éventuellement de ce qui s'est passé dans sa vie du fait de ce mariage mixte.
Ah, parce que en fait l'histoire commence un peu comme un roman policier. Ça commence par le décès d'une de leurs filles, c'est ça ?
D'emblée, la première phrase. Hein. Oui. La première phrase, c'est la mort de Lydia, leur seconde fille. Donc, en tout, les Lee, donc James et Marilyn Lee, ont trois enfants. Lydia meurt à 16 ans. On le sait dès la première phrase.
Il y a une enquête ?
L'enquête existe, elle est très secondaire, on n'entre pas du tout dans la tête des enquêteurs. D'emblée, elle est placée au second plan. C'est pas du tout ça qui est important.
Ce qui est important, c'est...
Pourquoi Lydia en est-elle arrivée là ? Du reste, je serais bien incapable de donner une réponse. Il y a plusieurs possibilités à chacun d'interpréter à sa façon... Plusieurs propositions sont possibles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un responsable de la mort de Lydia. Je crois que c'est ça qui est important. La mort de Lydia va révéler tout ce qui dysfonctionne dans cette famille mixte, parce que c'est bien ça le problème. Ouais. C'est une famille mixte et les enfants métis souffrent des mêmes problèmes que le père, James Lee. Malheureusement, les choses se répètent de génération en génération.
Parce que les gens ne communiquent pas suffisamment. Les parents et les enfants ne communiquent pas assez dans cette famille.
C'est une famille où on ne parle pas. On ne parle pas, on croit que les choses se devinent comme ça. Et en fait, on va de malentendu en malentendu, même entre frères et sœurs, entre parents et enfants, bien évidemment. Mais même au sein de la fratrie, il y a de gros malentendus qui déboucheront sur le drame.
Tu recommandes la lecture de ce livre pour quelle raison?
Alors, pour tous ceux qui aiment les romans psychologiques, l'analyse psychologique des personnages est extrêmement fouillée. On rentre dans leur tête, on les connaît bien, on peut s'attacher à eux, on les comprend. Tout cet aspect-là est intéressant. En revanche, si vous aimez les romans policiers, c'est pas pour cette raison, du moins, qu'il faut lire ce livre. On a plusieurs flashbacks. Parfois, on est un petit peu perdu au début, on ne sait pas trop où on se situe. Mais finalement, c'est pour éclairer la vérité des personnages petit à petit. Ça n'est absolument pas une construction linéaire. Il ne faut pas se laisser déborder par ces flashbacks. Il faut s'accrocher. Les choses se mettent en place finalement assez facilement. Mais il y a une construction très très élaborée. Rien de trop particulier sur le style. C'est un livre facile à lire.
Enfin, on sait si c'est un suicide ou pas.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Donc et c'est ça qui est intéressant.
On reste sur des mystères.
Tout à fait. Et je dirais que c'est une chose intéressante. Il ne fallait pas nécessairement insister là-dessus. Chaque lecteur peut se faire son scénario. Plein de possibilités sont probables. Mais en tout cas, il y a un faisceau de responsabilité familiale. Chacun peut se dire qu'il est en partie responsable du drame.
Oui, et donc ça nous fait réfléchir, nous, sur la nécessité de communiquer, parce
tout
que d'une
fait.
Part, il y a ce problème d'intégration de la deuxième génération, et puis la nécessité de communiquer en famille, parce que les non-dits causent des dégâts.
Oui.
Qui peuvent être considérables.
Alors, les non-dits et puis les projections, parce que la maman, Marilyn, est frustrée. Elle a obéi à sa propre mère pour être femme au foyer, abandonner ses études. Donc, elle projette sur sa fille. Mais tout ça n'est pas explicité, en réalité. Donc, comme Marilyn a déjà fait une première fugue pour reprendre ses études, sans être gênée, entre guillemets, par ses enfants ou sa famille... Lydia, l'héroïne quand même du roman, Lydia fera tout pour plaire à sa mère. Elle lui dira oui de façon inconditionnelle pour la garder à la maison. Mais si les choses avaient été explicitées, il n'en aurait pas été de même.
Alors, ce livre que tu viens de présenter m'a fait penser à un autre livre. Voilà, on est dans notre thème de livre en résonance.
Oui.
Un autre livre où il y a à la fois des méfaits du non-dit familial et puis aussi une certaine difficulté d'intégration. Le livre que j'avais envie de présenter à ce sujet, c'est le roman qui s'appelle « La Divine » de Marine Diaye. On le sait, elle est de mère française et de père sénégalais, mais elle est tout à fait française. C'est un livre qui est paru chez Gallimard en 2013, qu'on trouve maintenant très facilement en folio. Ça se passe de nos jours, ça se passe dans le sud de la France, dans un pays qui n'est pas nommé d'Afrique, on suppose, et puis aussi en Allemagne, à Berlin, et sur les plages de la Baltique. Alors là, on a trois générations. On a la mère qui s'appelle la Divine, qui est femme de ménage, qui est très solitaire. Elle a été abandonnée par son compagnon qui était blanc et elle en a eu une fille qui s'appelle Malinka. Mais cette Malinka, elle est blanche de peau, alors que la mère est noire. Donc Malinka n'a de cesse de faire oublier qu'elle a une mère noire. Donc elle change de nom. Elle se fait appeler Clarisse. Et quand elle épouse Richard, eh bien, elle s'installe à quelques kilomètres de Bordeaux, où se passe le début de l'histoire, eh bien, elle dit qu'elle n'a pas de famille. Donc, elle cache toute sa vie, sa mère, tout en allant la voir régulièrement tous les mois. Et elle a une fille, à son tour, qu'elle va appeler du nom de sa mère, elle appelle la Divine. Et que fait sa fille? Eh bien, elle la fuit aussi. Alors qu'elles sont, entre guillemets, blanches toutes les deux. Mais le malaise vient du fait que Malinka a caché que sa mère était noire et qu'elle a caché sa véritable famille.
D'accord, on est aussi dans des mensonges, des non-dits.
On est dans les non-dits, et puis on est aussi dans cette difficulté eh bien, de s'intégrer dans la société, puisque la mère, la divine, bon, ouais. Elle est femme de ménage, mais elle reste très très solitaire. Sa seule distraction, ce sont ses petits bibelots dans son appartement, ses petits animaux en verre et en porcelaine.
Alors, si je peux me permettre de t'interrompre, il y a aussi trois générations dans le livre que j'ai présenté, parce que la maman de Marilyn s'est opposée en quelque sorte au mariage de Marilyn avec un Chinois. Elle lui a dit dès le début que ça ne marcherait pas. Elle n'est pas allée au mariage de sa fille et elle n'a plus jamais vu sa fille jusqu'à sa mort. Donc, il y a quand même cette grand-mère, il ne faut pas l'oublier.
Il ne faut pas l'oublier, hein. Oui, tout à fait.
Donc, du coup, les enfants n'ont pas de grand-mère.
Oui, ils n'ont pas de grand-mère. Oui, ils n'ont pas. On a besoin de ses racines familiales.
Voilà.
On a besoin de ses racines familiales.
Oui, c'est un point commun important.
Le fait de cesser de voir ou le fait de nier qu'il existe, ça produit aussi des dégâts. Parce que dans le roman, là, je vous ai parlé des trois personnages principaux, mais en fait, il y a aussi beaucoup de personnages secondaires, dont un ado, par exemple, qui est mal dans sa peau, qui est obèse, etc., et qui ne sait pas pourquoi il est mal. Mmh. Mais il est mal parce que, justement, à l'origine, il y a ce mensonge.
D'accord.
Chaque génération vit sans le savoir sur ses mensonges. Je le dis très très platement parce que j'ai vu sur des sites que certains n'ont pas aimé ce roman parce qu'en fait ils ont dû rater le moment très furtif hein, où Marine Diaye dit que eh bien, la mère, elle est noire, elle dit simplement parce que sa fille l'appelle la négresse. C'est dit la servante ou la négresse. C'est dit une fois. Et c'est sûr que si on ne le dit pas, on risque de ne pas comprendre. Ça ne s'est pas spoilé, comme on dit, le livre que le dire, mais sinon on risque de ne pas comprendre l'histoire. Alors j'ai bien aimé ce livre parce que, en fait, ça c'est le style de Marine Diaye, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du quotidien, du réalisme, et puis en même temps il y a toujours un peu de magie, et un peu de fantastique. Et il y a un animal, il y a un chien qui revient. Comme dans certains films feuilletons, on voit parfois un loup ou une chienne blanche qui revient régulièrement et qui représente peut-être une pensée, une conscience ou une autre personne.
C'est une métaphore.
Voilà, c'est une métaphore et là on la retrouve. Les scènes qui sont en Afrique aussi sont très étonnantes, ouais. Avec ces sensations qu'on a parfois d'avoir déjà vu, d'avoir déjà vécu quelque chose alors qu'elle-même n'y est jamais venue. Ça, c'est vraiment très, très prenant. Et bon, je recommande ce livre parce que quand on y réfléchit bien, eh bien, chacun peut trouver matière à réflexion pour son propre compte parce qu'elle dit, Marine Diaye, qu'elle n'écrit pas en tant que femme noire, mais qu'elle écrit en tant qu'être humain. Et un critique dit, elle a trouvé une forme qui n'appartient qu'à elle pour dire des choses qui appartiennent à tous.
Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'en effet, dans le livre « Tout ce qu'on ne s'est jamais dit », je pense que chaque lecteur peut se reconnaître, peut se reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir, à un moment donné de sa vie, dit les choses. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde.
Alors, on vous recommande « Tout ce qu'on ne s'est jamais dit » de Céleste Nguet, traduction Fabrice Pointeau, que vous trouverez facilement en pocket, et puis « La divine » de Marine Diaye, qu'on trouve très facilement en folio et puis aussi en version numérique. À bientôt !